Bonjour, la danse des mots d'aujourd'hui, elle ne va pas parler en latin et en grec, mais elle pourrait presque. En tout cas, elle va parler du latin et du grec, et même de l'enseignement du latin et du grec, de ce qu'on appelait jadis les humanités. Est-ce qu'aujourd'hui on appelle encore ça les humanités? D'ailleurs, est-ce qu'on enseigne encore le latin et le grec, et dans quelle proportion? Eh bien, c'est l'une des questions que je voudrais poser à Augustin Dumière. Augustin Dumière, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ici. Vous êtes professeur de français, ou en tout cas vous l'avez été, mais vous êtes également professeur de latin et de grec à Meaux, au lycée Jean Villard. Alors, déjà, c'est une situation un petit peu particulière. On a souvent l'impression que le latin et le grec, ce sont des appendices. C'est de l'en plus de l'enseignement du français, si on veut, et c'est le prof de français qui s'en charge. Vous avez commencé par enseigner les trois, et puis vous avez eu assez d'élèves pour vous consacrer uniquement à l'enseignement du latin et du grec. Le français, hop!
Exactement. La plupart des professeurs de lettres classiques qui passent 5 années à étudier le grec et le latin n'ont malheureusement pas la possibilité d'enseigner le grec et le latin, faute d'élèves. Grâce aux actions qu'on a pu mener, qui nous ont apporté beaucoup d'élèves dans les classes, j'ai pu consacrer la totalité de mon enseignement au grec et au latin, et je sais que j'ai une chance énorme, et voilà, j'espère que ça va continuer.
Donc vous avez pas mal d'élèves, de plus en plus, ou enfin il y a eu quand même une courbe croissante, j'imagine.
Pour vous donner une indication précise, quand je suis arrivé dans le lycée, il y avait 10 élèves de grec pour l'ensemble de l'établissement. Aujourd'hui, il y a une centaine d'élèves qui étudient en tout et pour tout le grec et le latin.
Donc, vous avez multiplié ça par 10.
Voilà, ça s'est multiplié par 10. Il y a même eu des années plus fastes où on l'a multiplié par 20.
Alors, évidemment, la première question qu'on se pose, c'est à quoi ça sert d'apprendre le grec et le latin aujourd'hui? C'est sûr que ça ne sert pas forcément à trouver un métier, sauf le vôtre, si on veut être professeur, mais on n'étudie pas une chose pour ensuite la retransmettre, pas uniquement, quoi. Alors, à quoi ça sert?
Je vais vous rapporter une anecdote que j'ai eue lorsque j'ai rencontré Jacqueline de Romilly, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Madame de Romilly, donc académicienne qui préside...
Une grande helléniste.
Grande helléniste, ouais. Spécialiste de l'historien Thucydide. Et lorsque je l'ai rencontrée, donc elle me demandait, mais comment vous faites pour recruter les élèves qui font du grec ancien aujourd'hui? Je lui ai expliqué tous les arguments qu'on déployait, avec lesquels elle était tout à fait d'accord, l'utilité pour le vocabulaire scientifique, la maîtrise de la langue française, la culture générale, les racines communes avec les langues vivantes, tout ce que ça peut apporter comme connaissance de la littérature française, comme source de la littérature française. Et puis, il y a eu un temps d'arrêt, après que j'ai eu débité tous les arguments, elle m'a dit, mais finalement, ça ne sert à rien. Et c'est peut-être voilà ce qu'il y a de plus intéressant, je dirais, sur le grec et le latin, c'est que je pense qu'on aurait tort de les limiter à une utilité immédiate. Bien sûr que ça aide pour le français, bien sûr que ça aide pour maîtriser le vocabulaire scientifique.
Mais c'est pas l'essentiel.
Voilà, je crois que l'essentiel.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Et c'est vrai que les élèves qui en font, on s'aperçoit que c'est quelque chose, ça fait partie des choses qui restent des années après. Je le sais parce que moi, je travaille avec une association d'anciens élèves qui s'appelle Métis, qui m'aide énormément dans cette promotion du grec et du latin, puisque ça a beaucoup plus de force de voir des anciens élèves des mêmes quartiers qui viennent en parler dans les classes que de voir professeur un peu garé qui vient chercher des élèves. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit assez profondément.
Et puis ça construit une culture. Et pour construire une culture, il faut aussi sortir un tout petit peu du quotidien, être relié au quotidien, pas être uniquement dans ses rêves, mais pouvoir justement faire un aller-retour entre, quand je dis un rêve, faut pas que ça soit péjoratif, mais entre la connaissance d'un monde qui n'appartient pas à la vie quotidienne et puis la vie quotidienne qu'on a.
Tout à fait. C'est vrai que c'est quelque chose dont on peut prendre la mesure souvent dans des circonstances assez rares. Je vais vous donner un exemple. On a réussi là, pendant les vacances de Pâques, à organiser pour la première fois un voyage en Grèce. C'était totalement inenvisageable. Vous voyez qu'il m'a fallu, je suis arrivé dans ce lycée en 1995, et il m'a fallu plus de 14 ans pour réussir à organiser un voyage en Grèce. Et pour cause, le budget d'un voyage en Grèce est supérieur à 1000 euros. Peu de familles pouvaient se le permettre. Et par conséquent, grâce aux actions qu'on a pu mener et les contacts que nous avons pu nouer, on a enfin pu organiser ce voyage. On a emmené 50 élèves en Grèce. Et c'est vrai que là...
Alors combien de temps vous êtes resté en
Grèce? Nous sommes restés 10 jours. En passant par Delphes, Olympie, Mycène, la Crète, Santorin, Délos. Donc un voyage absolument exceptionnel. Et c'est vrai que là, on avait le sentiment d'une complétude assez rare. C'est-à-dire qu'on voyait des élèves qui, habituellement, écrivent à peine deux notes en cours, noircir des carnets de bord chaque soir après avoir vu l'île de Délos, après avoir vu la nécropole d'Agamemnon à Mycène. Donc, c'est vrai qu'une fois ce voyage fait, j'ai pu mesurer à quel point, voilà, cette notion de culture commune, de culture générale, par rapport à tout ce qu'on peut apprendre, c'était quelque chose d'assez spectaculaire.
Oui, puis on voit aussi que, quand même, il y a 2500 ans, on a l'impression que la culture, elle se condensait beaucoup autour de la Méditerranée.
Tout à fait.
Le Nord, c'était des barbares. Hein.
Exactement, exactement. Et d'ailleurs, notre souhait sera à l'avenir, si on a la possibilité financière de faire un prochain voyage, on choisira sûrement la Turquie ou l'Afrique du Nord, justement, pour montrer cette unité commune qui s'est construite autour de la Méditerranée.
Très rapidement, essayons de voir si justement l'enseignement, et là je dirais pas du grec, je dirais plus du latin, il me semble, est quelque chose qui peut aider à maîtriser le français. C'est vrai que le latin, c'est pas une langue facile, c'est une langue dont la syntaxe est très différente du français, mais dans la maîtrise de la syntaxe, l'approche de la syntaxe solidifie certainement l'approche de la grammaire française. Alors, en ça, on peut dire qu'il y a une utilité plus immédiate. Vous êtes d'accord là-dessus?
Je dirais que les élèves que l'on va rencontrer, les collégiens de troisième que nous allons rencontrer chaque année pour évoquer justement l'intérêt du grec et du latin, sont immédiatement plus sensibles au grec parce qu'il y a une étrangeté, il y a un nouvel alphabet. Ils sont ravis de voir que quand il y a un θ en grec, il y a un th en français, de voir comment est-ce qu'avec une simple racine grecque, par exemple la racine de orthos qui veut dire droit, on peut former 10 mots français, orthographe, orthodontiste, orthopédiste, orthonormé, orthogonal, donc dans des univers très différents. Donc il y a quelque chose de ludique qui se met en place plus rapidement et plus efficacement peut-être que pour le latin. Cela dit, c'est vrai que la maîtrise du latin est quelque chose, donne une compétence en grammaire, en langue française, que peu d'élèves peuvent acquérir sans,
oui, parce que
sans la maîtrise du latin.
Pour accéder au béaba du latin, il faut être sûr de ce que c'est qu'un verbe, qu'un complément, qu'une relation directe ou indirecte avec ou sans proposition, qu'est-ce que c'est que transitif, il faut savoir manier les cas, donc forcément ça va solidifier ce qu'on connaît en français, disons.
Alors, le problème, c'est que ce raisonnement consistant à dire que le latin était nécessaire pour la maîtrise du français a causé tout de même beaucoup de dégâts, puisque
certainement
beaucoup de personnes, et notamment de professeurs qui s'intéressaient à la langue française, qui aimaient le français, qui aimaient la littérature, mais n'avaient pas forcément envie de passer des années à apprendre le nominatif, le vocatif et l'accusatif, ont comme ça été un peu contraints de faire du latin dans une période qu'on pourrait situer dans les années 60, 70 et même bien avant.
Sûrement bien avant.
Oui, sûrement bien avant.
Enfin, 60-70, on peut quand même en témoigner.
Voilà. Donc voilà. Oui, mais moi je peux voir par les conséquences que ça a pu avoir. Ouais. Et c'est vrai que on est passé d'un moment où on a dit sans le latin vous ne pourrez rien faire de bon en français, à le latin ne sert absolument à rien. Et surtout si vous voulez faire du français, évitez le latin, ça n'a rien à voir. Nous, c'est vrai que notre discours essaye d'être entre les deux, c'est-à-dire de dire ça a une utilité énorme. Mais vous pourrez réussir sans. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas, on veut éviter de retomber dans les errements passés où l'on prétendait que celui qui ne fait ni grec ni latin n'a aucune chance de réussir.
Il me semble aussi, Augustin Dumière, qu'il y a des choses qui se sont inversées entre l'enseignement du latin et du grec tel que vous le pratiquez aujourd'hui et puisqu'il était il y a quelques dizaines d'années. Parce que pendant très longtemps, le latin et le grec passaient un peu pour des matières poussiéreuses. Et puis on enseignait d'abord, en effet, la grammaire, les déclinaisons. On faisait faire du thème, on faisait faire des versions, etc. Et après des mois, des semestres, des années de tout ça, on pouvait de temps en temps découvrir que à Rome, il s'était passé telle et telle chose, que en Grèce, il y avait aussi de l'art, qu'il y avait une histoire, qu'il y avait une philosophie, qu'il y avait quelque chose qui pouvait faire rêver. Mais l'accès à la littérature, disons, de l'Antiquité, ne venait qu'après, c'était une cerise sur le gâteau, et le gâteau, il était compact. Hein. On a un petit peu retourné les choses, non ?
C'est vrai que aujourd'hui, si vous arrivez dans une classe où vous voulez donner à des élèves le goût du grec et du latin, et que vous démarrez par une version ou par un discours de Cicéron, c'est très simple, vous n'avez plus aucun élève à la fin de votre premier cours. Oui. Donc on est obligé de procéder différemment, et je crois surtout que ce qui a changé, c'est que maintenant, c'est très simple, les élèves ne sont pas du tout contraints de faire du grec et du latin, oui. Et s'il n'y a pas une part de jeu, une part de séduction dans cet enseignement, nous n'aurons plus personne, et que c'est très différent de ce qui pouvait se produire il y a simplement une vingtaine ou une trentaine d'années, où il y avait une sorte d'assise, d'assurance du grec et du latin, et où le professeur ne se sentait peut-être pas contraint, justement. Là, c'est très simple, si on veut que ces matières existent, on est obligé de créer cette part de jeu, cette part d'amusement chez l'élève. Cela dit, à un moment ou à un autre, on est obligé de venir effectivement à la traduction, au texte. Ça fait partie d'un jeu aussi pour l'élève, mais c'est vrai que ce n'est pas le jeu qu'il peut aborder en premier. Pour un élève, entendre un chant de l'Iliade en français, c'est quelque chose d'immédiat, et qui peut voir que la guerre, la confrontation, la manière dont les guerriers se parlent est quelque chose qui a une modernité. Jouer avec les étymologies des mots grecs, c'est quelque chose aussi d'immédiatement palpable. C'est vrai qu'après, traduire un texte d'Homère ou traduire un texte de Platon, c'est quelque chose qui vient après. Mais c'est aussi nécessaire, et je dirais que si jamais on reste pendant 3 ou 4 ans à jouer avec les étymologies, on finit par n'intéresser plus personne. Donc on est obligé à un moment ou à un autre de faire progresser cet enseignement et de l'amener effectivement vers une maîtrise de la langue grecque et de la langue latine.
Ouais. Alors Augustin Dumière, comment vous avez fait justement pour intéresser tous vos élèves à tout ça ? Il y a votre force de persuasion à vous, et puis vous avez quand même essayé de créer un réseau, ne serait-ce qu'avec vos anciens élèves.
C'est essentiel. Là, le réseau avec les anciens élèves, c'est vraiment ce sur quoi je me suis appuyé, parce que c'est vrai que c'était des élèves qui n'avaient jamais entendu parler du grec, dont les parents souvent étaient arrivés en France sans parfaitement maîtriser le français, et que à cet égard, leur goût du grec et du latin, qui vraiment ne correspondait à aucune démagogie et qui était vraiment profondément sincère, a été pour moi et est pour moi quelque chose vraiment d'extrêmement puissant pour pouvoir aller intéresser des collégiens. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été extrêmement important pour moi. Après, l'argumentaire, il varie. Il y a d'abord le fait que c'est une option qu'on retrouve partout. C'est-à-dire de dire, quand vous faites du grec, vous le retrouvez en sciences, vous le retrouvez dans les langues vivantes, puisqu'il y a des racines communes, vous le retrouvez en français, donc c'est quelque chose, tant qu'à faire une option, puisque vous avez la possibilité de choisir des options, vous choisissez une option que vous retrouverez dans différentes matières. Il y a aussi le fait que de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, ou même de l'art, de la musique, on peut assez facilement en faire après. Vous conviendrez avec moi que le grec et le latin, si on n'en fait pas au lycée, on a peu de chances d'avoir la possibilité d'en faire après. Et puis, il y a cet argument qui revient aussi souvent, qui est un argument purement comptable, ou qui est discutable, mais le fait qu'effectivement, quand on passe le grec et le latin au bac, aujourd'hui, il n'y a plus que les points au-dessus de la moyenne qui comptent.
La danse des mots, Yvan Amar.
Augustin Dumière, qui sont-ils justement vos élèves? Est-ce que de temps en temps justement vous arrivez à convaincre de mauvais élèves, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas très à l'aise au collège et au lycée, puisque vous êtes professeur de lycée, de faire du latin et du grec? Est-ce que ça les aide? Est-ce que ça les ramène vers quelque chose? Est-ce que ça, ça leur donne confiance ou bien, parce qu'il ne faut pas que ça soit uniquement élitiste, ça sera encore c'est mieux pour les bons élèves
exactement.
Pas bon pour les plus mauvais qui n'en feront jamais.
Exactement. C'est ça qu'il faut éviter. Ça, c'est quelque chose d'essentiel et c'est même la pierre angulaire de notre action, c'est-à-dire que les classes de grec, il y a 50, 60 élèves dans des classes de grec, et là, pour le coup, on n'est plus du tout dans les schémas entre guillemets traditionnels des classes de bons élèves, c'est-à-dire vient vraiment l'élève qui n'a pas entendu parler du grec, et il y a de tout, et c'est pas toujours facile à gérer des classes de 50 ou 60 élèves où il y a certains qui n'ont pas toujours bien intégré les codes d'une classe, mais l'intérêt justement c'est de voir un nouveau type d'élèves, c'est-à-dire des élèves qui n'iront peut-être pas en première générale, c'est-à-dire ne feront ni première scientifique, ni première littéraire, mais ont un réel goût pour le grec, sans doute parce que le grec, d'abord, remet les compteurs à zéro. Personne n'a entendu parler du grec en seconde, personne n'arrive avec des bases familiales plus fortes, comme ça pourrait être le cas pour le français, et c'est vrai que là, de ce côté-là, on arrive à créer un public qui est totalement nouveau pour cette matière, et ça participe évidemment de l'efficacité de notre action, oui.
Alors, comment vous y prenez pour leur apprendre tout ça? Qu'est-ce que vous faites justement dans ces classes?
Alors, la première chose à faire, si vous voulez, il faut alterner déjà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans un domaine différent. Il faut quand même varier les choses. On est quand même aujourd'hui à un moment où l'élève a, de façon même excessive, la volonté de ne pas s'ennuyer. C'est-à-dire que dès qu'il s'ennuie, il dit que c'est pas bien. Et de fait, il y a une sorte de concurrence aujourd'hui entre les options. On est quand même confronté, lorsqu'on a des élèves qui démarrent le grec, à la nécessité de varier. Donc on passe de l'étymologie, alors apprendre des racines grecques, par exemple, arché, le commandement ou le commencement, archaïque, monarchie, donc archéologie. On passe comme ça donc des racines grecques qu'on découvre, qu'on étudie, à la maîtrise de l'alphabet et la lecture du grec. Donc ça aussi, quelque chose d'assez ludique, parce que ça amuse beaucoup les élèves.
Oui, parce que c'est un code, quoi.
Exactement, voilà, de découvrir un nouvel alphabet, de lire les onomatopées d'Aristophane dans les grenouilles. Et puis, ensuite, on enchaîne sur la mythologie. Alors ça peut aller de la naissance de l'univers pour les Grecs au début, Chaos, qui se trouve avec Gaïa, Eros, et puis la naissance du ciel. Bref, comment est-ce que les Grecs se représentaient le monde? La tragédie d'Oedipe. Bref, on lit des textes. Ça peut être un chant entier de l'Iliade que nous lisons en classe.
Oui, et puis c'est des choses qui peuvent plaire, parce que quand même, ça correspond pas vraiment à des conventions. Hein.
Tout à fait.
On parlait de mythologie, on passe de l'inceste au festin cannibale. Il y a de quoi. Alors, on s'ennuie pas quand même.
Exactement. C'est une phrase qui revient souvent de la part de mes élèves. Ils sont gores, les Grecs. C'est quelque chose qui...
C'est vrai.
C'est probablement vrai.
Alors, comment ils considèrent justement l'antiquité grecque, vos élèves? Si on part de la civilisation, on en verra beaucoup plus la violence que si on part de la langue, où on en voit quelque chose qui nous paraît beaucoup plus polissé, et peut-être un peu trop.
Je dirais que l'expérience qu'ils en font, c'est celle à la fois du proche et du lointain. C'est-à-dire qu'ils sont étonnés de retrouver, ne serait-ce que dans des marques commerciales, des chocolats Léonidas, la firme Nike, Thalès, enfin vous prenez, ne serait-ce que dans
vous
le langage...
Vous faites passer de Nike à Nike, vous voulez dire?
Voilà, exactement. Ouais. Voilà,
Nike, c'est quoi? C'est la victoire.
Nike, la victoire, tout à fait. Donc c'est quelque chose qui, là, est redoutablement efficace, c'est-à-dire que quand on marque au tableau Nike, qui veut dire la victoire, on a toute une classe qui dit « Haha, nique ta mère », et tout à coup, quand on leur dit « ça a donné Nike », il y a une sorte de silence religieux dans la salle qui écoute voilà, avec respect le fait que le grec ait pu donner un slogan commercial aussi important. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils ont l'impression de retrouver dans leur vie quotidienne. Ils sont étonnés de voir que ce grec, cette langue grecque a tant d'incidence dans leur vie quotidienne, dans les mots qu'ils utilisent tous les jours, et en même temps, une impression d'étrangeté totale avec cette religion polythéiste, les sacrifices parfois humains des Grecs, la manière dont ils se parlent. Donc il y a les deux, et je crois que ça participe beaucoup à la séduction de cette langue, c'est à la fois cette proximité et cet éloignement dans lequel ils se sentent par rapport à la langue grecque.
Thank you.
Alors dites-moi, Augustin Dumier, est-ce que vous avez l'impression que enseigner quelque chose qui justement n'est pas, disons, immédiatement rentable, ça permet d'aider à fabriquer des élèves qui s'en sortiront bien?
Je suis tout à fait d'accord avec ce propos, qui consiste à dire qu'il faut surtout éviter l'immédiatement rentable. Malheureusement, on y est totalement contraint. C'est-à-dire que moi, en tant qu'enseignant de langue ancienne, je suis quand même obligé de montrer très rapidement à l'élève de quelle manière est-ce que l'apprentissage du grec ou du latin peut le faire progresser. Cela dit, je pense que le fondement même...
Vous êtes dans un aller-retour constant, quoi.
Exactement. Je pense que le fondement même de l'enseignement, c'est justement de s'éloigner, bien sûr, de notions de rentabilité immédiate, parce que plus un enseignement est rentable, entre guillemets, immédiatement, plus il est à changer, plus il est à modifier, et moins il durera. Donc, à mon avis, le meilleur moyen de pérenniser un enseignement, c'est justement de ne pas avoir cet objectif de rentabilité immédiate.
Alors, je sais que vous animez aussi des ateliers théâtre. Je ne sais pas si vous appelez ça des ateliers, mais vous faites aussi du théâtre. C'est quelque chose de tout à fait différent de votre enseignement des langues anciennes. Vous l'avez mis en rapport avec ça? Comment ça se passe?
Je l'ai totalement mis en rapport, dans la mesure où je le fais toujours dans ce cadre de l'association que j'ai fondée avec les anciens élèves.
Qui s'appelle donc Métis, c'est ça?
S'appelle Métis.
Alors, Métis, parce que ça fait penser à Thémis, c'est ça? Pourquoi Métis?
Alors, Métis, parce que Métis est la...
C'est un mot qui a été très, très à la mode depuis une vingtaine d'années,
c'est vrai. Tout à fait, Mais là, à l'occurrence, la Métis à laquelle nous faisons allusion est un mot grec.
M-E-T-I-S.
M-E-T-I-S, exactement.
Enfin, ou mu.
Exactement. Et alors, la Métis, pour les Grecs, c'est la ruse, c'est même la première épouse de Zeus. Et elle avait le don de métamorphose, puisqu'elle avait la capacité à anticiper les coups de l'adversaire. Et elle pouvait se transformer dans différentes formes. Et Zeus lui a demandé de se transformer en goutte d'eau, en lion. Et puis au moment où il s'est transformé en goutte d'eau, il l'a avalé. Et Zeus, ayant avalé Métis, il a intégré toutes les qualités de Métis. Et Métis était enceinte d'Athéna, ce qui explique qu'Athéna est sortie toute armée de la tête de son père. Voilà. Donc, au sein de cette association Métis, on a développé effectivement du théâtre, mais du théâtre assez différent d'un atelier, dans la mesure où quand on monte un spectacle, il y a quatre intermittents, deux comédiens professionnels, un technicien du son, un technicien lumière, et que les élèves, ils sont priés de répéter cinq fois par semaine, tous les jours. Donc c'est vraiment, on veut leur faire vivre la préparation d'un spectacle. De théâtre.
Donc il y a une exigence
professionnelle. Ah, il y a une exigence énorme. Il y a une exigence pré-professionnelle, ouais. Tout à fait. Et le résultat est assez prodigieux quant à ce que font les élèves, parce que effectivement ils arrivent à être débarrassés de tout ce qui peut les encombrer, c'est-à-dire l'addiction, c'est-à-dire la compréhension des mots. Et quand on lâche un élève sur une scène avec plus rien qui ne l'encombre et qu'il n'y a plus que sa fantaisie personnelle qui peut s'exprimer, on a un résultat tout à fait spectaculaire. Et je dirais pour aussi que le théâtre m'a fait prendre conscience aussi que en tant qu'enseignant de français, on passe notre temps à essayer de sensibiliser les élèves à la littérature française. Et le théâtre m'a fait l'effet d'un séjour dans un pays étranger qu'on ferait pour apprendre l'italien ou l'anglais. En passant 2 mois à Rome, à mon avis, on fait plus de progrès qu'en 7 années d'italien dans un établissement scolaire. Et là, j'ai eu le même sentiment par rapport au français. C'est-à-dire que ces répétitions, ce travail sur le texte avait radicalement changé la manière de lire en classe, et que la sensibilité littéraire d'un élève s'éveillait beaucoup plus après 3 mois de théâtre, simplement, plutôt que après des années de commentaires.
Parce qu'on a un rapport à la langue complètement différent, parce que la langue est mise en scène.
Et parce que la langue est dite, parce que la langue est exprimée, qu'on est obligé de travailler sur chaque mot, et que, à force de répéter, les mots leur deviennent familiers, ils finissent par les aimer, ces mots. Moi, j'ai vraiment vu des élèves qui avaient du mal à rester assis sur une chaise, qui avait vraiment du mal à se concentrer, qui tout à coup, après trois mois de répétition de théâtre intensive, était capable de faire entendre un texte qu'il découvrait pour la première fois.
C'est-à-dire que c'est une violence terrible de faire rester des adolescents assis sur leur chaise. Et puis il y a peut-être autre chose, vous en faites avec eux du théâtre?
Alors, bon, j'en fais avec eux. Est-ce que je joue sur scène avec eux?
Que vous jouiez ou pas, j'imagine que ça vous met, j'allais dire, en danger. Vous faites du théâtre au risque même de ce que vous êtes, c'est-à-dire que vous vous exposez quand même.
Je m'expose, mais je pense aussi que la présence justement des professionnels du théâtre est absolument essentielle, parce que si jamais c'est pour voir leur professeur tous les soirs en sortant des cours et qu'il n'y avait pas justement un souffle nouveau venu, notamment des professionnels de la profession qui apportent justement un souffle, un parfum un peu nouveau, je pense que ça ne fonctionnerait pas aussi bien. Il est évidemment...
Oui, et puis qu'ils montrent qu'ils viennent, eux, de la société.
Exactement.
Et pas juste d'une école qui est close sur elle-même.
Exactement. Et d'ailleurs, ça change même le lien. Parce que quand un intermittent se déplace, fait 50 km pour faire répéter un groupe de lycéens et qu'il y en a un qui n'est pas à l'heure, il a un argument de poids en disant « Moi, je ne suis pas du tout payé pour ça. Moi, mon travail, c'est d'être comédien. Je viens ici parce que ça m'intéresse de travailler avec vous. Mais si vous n'êtes pas à l'heure ou si vous ratez une répétition pour regarder un feuilleton à la télévision, c'est évident que je ne viendrai plus. » Donc ça aussi, ça modifie un peu le rapport. Tandis que le professeur, on sait qu'il est là, on sait qu'il sera là demain. Il n'est pas prêt de partir, le professeur.
Merci encore, Augustin Dumière, d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir parlé de la vie du grec dans votre lycée. Il faut signaler également qu'il y a un livre que vous avez écrit en collaboration avec Marion Van Rentergen qui vient de sortir. Ça s'intitule « Homère et Shakespeare en banlieue » et c'est publié chez Grasset. C'était La Danse des mots, une émission proposée par RFI et le Centre National de Documentation Pédagogique. Sophie Mallet, Naja Daguerre, Yvan Amar.